Le problème en hiver, il faut partir à 8h, 8h15. Ouais. Il faut traîner à gauche, à droite, jusqu'à 19h, 19h30. Et c'est ça qui est fatigant.
Poussez pas! Ça ne sert à rien!
Vous avez de la chance de dormir comme non, il n'y a pas.
Non, doucement!
Edgar. Il y a une partie de cette population qui est tellement marginalisée qu'ils n'ont plus d'existence. Les gens dans la rue ont un peu honte, donc vont détourner le regard. On les zappe, on essaie de les effacer. Et ça, ouais.
Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour Didier Rueff.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Très bien, je vous remercie. Nous parlons avec vous de ce travail que vous nous proposez à voir à la Cité Senior à Genève. 72 boulevard des Écorchés, je l'ai dit, une série de photographies, un long travail documentaire que vous avez réalisé dans cet abri PC qui héberge des sans-abri à Genève, venant de provenances diverses et variées, parfois même extrêmement locales. Certains vivaient à quelques pâtés maisons de là et se retrouvent en raison des vicissitudes de la vie dans cet abri hébergé pour l'hiver ou plus si affinité. C'est un travail au plus près que vous avez produit là, Didier Rueff, puisque avec votre appareil photo, eh bien vous avez passé du temps dans ce centre d'hébergement pour sans-abri à Genève. Ce sont des abris qui accueillent des gens pour la nuit uniquement. On l'a bien entendu d'ailleurs dans l'introduction de cette émission, puisque passé une certaine heure et avant une autre heure, eh bien ils ne peuvent pas résider dans cet abri. C'est le principe des auberges de jeunesse, mais enfin là, appliqué effectivement aux sans-abri. Tout d'abord, Didier Rueff, j'ai évoqué tout à l'heure Recycle, ce très gros travail que vous avez fait autour de la planète sur l'homme et ses à-côtés, ce qu'il produit, ses déchets, mais aussi ce que l'on peut recycler. Je précise également que vous êtes donc à Lugano aujourd'hui, c'est la ville où vous êtes établi désormais. C'est un travail assez étonnant que vous nous proposez là, parce que voilà, d'abord il est en couleur, moi j'ai fait des souvenirs de vous en noir et blanc, si j'ose dire, Didier Rueff. Et puis c'est un travail qui, cette fois-ci, s'intéresse à vraiment quelque chose alors qui est très très proche de nous et qui, bien évidemment, on ne voit pas. Est-ce que c'était votre motivation principale que de documenter cette pauvreté si proche et si invisible à la fois ?
Vous l'avez dit avec justesse, ce travail sur la pauvreté, c'est un petit peu la suite de différents projets que j'ai faits autour de la pauvreté à Genève. C'est-à-dire que en 1989, j'avais l'intention de réaliser un reportage sur la pauvreté en Suisse. Habitant à l'époque à Zurich, je me suis dit qu'il serait plus facile de travailler à Genève, ma ville natale, et j'ai réalisé avec beaucoup de difficultés sur près de 3 mois un reportage, l'un des premiers d'ailleurs, sur la pauvreté en Suisse à visage découvert. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important qu'on ait une vraie personne, avec un visage non pas flouté, non pas caché, mais un visage qui nous parle et qui nous révèle son parcours de vie. Donc ce reportage-là avait été effectué, et j'en avais gardé des souvenirs importants, même si finalement ce sujet, en dehors de Suisse, n'avait jamais véritablement fonctionné. La pauvreté en Suisse, c'est quelque chose qui, je pensais, allait susciter des intérêts à l'étranger, mais on m'aurait gentiment répondu qu'il y avait de la pauvreté ailleurs, donc il ne fallait pas essayer de proposer ce sujet. Mais qu'importe, je l'ai recommencé en 2005, toujours à Genève, et c'est là que j'ai découvert en fait ces populations qui habitaient dans ces abris précaires pour l'hiver. Et à l'hiver 2014, j'ai proposé le sujet en fait à l'illustré, qu'il a accepté, et nous sommes partis avec un journaliste dans cet abri bien précis à la route de Frontenay, au 72 boulevard de Frontenay, d'où le titre « Boulevard des Écorchés ». Et nous sommes intéressés à cet abri-là parce qu'il héberge à la fois les grands précaires, c'est-à-dire ces gens, ces hommes, ces femmes qui sont partis à la dérive, qui ont perdu un peu les attaches d'une vie normale et qui sont là hébergés pendant l'hiver. Et puis à cette population-là s'ajoute une population hybride constituée de gens de passage, de familles, de Roms, et c'est cette espèce de mélange qui m'a intéressé.
Vous êtes parti en reportage, donc vous le disiez, pour l'illustrer, Didier Rueff. Est-ce à dire que ce travail-là, ce travail documentaire que vous avez fourni, il ne peut exister que si vous avez le support d'un journal, d'un magazine en l'occurrence ?
Non, il aurait pu exister par lui-même, mais étant photographe indépendant, devant travailler, devant pouvoir arriver à vendre ses sujets, c'est sûr que avoir un support à l'avance d'un magazine, c'est d'une certaine manière, en ce jour de Vendredi Saint, un peu du pain béni. C'est-à-dire que on a la garantie de pouvoir travailler, de voir ce travail un jour publié et de pouvoir se plonger sans encore ajouter un risque financier à l'opération. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un partenariat avec un magazine quand ça fonctionne, et de nos jours c'est de plus en plus rare, il faut le souligner. Mais avoir un partenariat permet de vraiment plonger dans un sujet.
Vous qui avez parcouru la planète, on peut le dire, Didier Rueff, de l'Azerbaïdjan aux Philippines, en passant par les États-Unis, l'Afrique, l'Italie, l'Europe, enfin que sais-je, qu'est-ce qui vous a le plus frappé lorsque vous êtes arrivé sur ce fameux boulevard des écorchés ?
Ce qui est terriblement frappant, c'est d'abord l'entrée, parce que l'entrée, c'est l'entrée d'un côté, il y a un parking, de l'autre, il y a une rampe qui descend. On y voit des gens qui s'agglutinent devant une porte. Cette porte, elle est avant 7 heures, elle est condamnée. Les gens attendent, et puis elle s'ouvre et s'ouvre ce monde de ces abris PC, de ce monde souterrain, de ce monde que la Suisse a créé un jour pour se protéger de ces attaques nucléaires. Et une fois entré dans cet abri, eh bien d'une certaine manière, on est hors du temps, on est loin de la ville, on est en sous-sol, on est dans une micro-bulle. Et on a affaire devant nous, on est confronté à des gens qui, d'une certaine manière, ont pour tout abri cet endroit. Et ils viennent s'y réfugier, particulièrement en hiver. Ils peuvent s'y nourrir, ils peuvent s'y doucher, ils dorment. C'est un lieu de repos, c'est un lieu d'aisance et c'est surtout un lieu, d'une certaine manière, de confort. Donc c'est assez surprenant à quelle vitesse on quitte un monde pour entrer dans un autre.
J'évoquais tout à l'heure le choix de la couleur pour ce reportage, ce qui m'amène à la question du cliché, mais vraiment du cliché lorsqu'on traite un sujet. Est-ce que le choix de la couleur était un impératif pour le magazine qui vous a employé, et est-ce que c'était aussi pour vous un choix esthétique évident, c'est-à-dire qu'il fallait sortir un peu, disons, du misérabilisme de certains clichés, sortir du noir et blanc et proposer de la photographie couleur telle qu'on peut la voir dans cette exposition?
Bon, ce qui est intéressant dans cette exposition, et vous avez vu les images, c'est qu'ils ont des couvertures orange qui explosent, qui flashent. Donc c'est sûr que la couleur fait ressortir cet élément-là. Il en amène d'autres. Noir et blanc, couleur. Moi, j'ai beaucoup travaillé en noir et blanc. Là, c'était l'occasion de se plonger en couleur et je trouve que c'est aussi intéressant. Finalement, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que là, dans ce abri particulièrement, les couleurs, cette espèce de monde aseptisé, de néon, les parquets, les sols étaient verdâtres, si je me souviens bien, les murs aussi, faisaient une ambiance un peu lunaire, un peu martienne. On était vraiment hors du temps, hors du monde, et je pense que là, la couleur vient encore en plus souligner cette misère humaine.
Et puis, bien sûr, les cadrages, ce sont des endroits assez exigus et pourtant vous essayez d'en montrer le maximum. Ça veut dire aussi que vous faites des choix de cadrage et des choix de montrer ou pas certaines choses. Enfin, c'est assez compliqué de comprendre parfois tout ce que l'on a dans une image. Et là, effectivement, vous avez des choix très très clairs. Il y a d'une part ce code graphique que vous venez d'évoquer, ces oranges, ces verts, enfin ces couleurs un petit peu particulières, si typiques par ailleurs. Et puis, ces gens photographiés au plus près.
Ça, c'est un peu la marque de fabrique. Je suis toujours très près des gens. Je ne me cache pas. Ces gens sont photographiés avec leur accord. Nous avons bénéficié, bien sûr, du soutien des gens, des collaborateurs de la ville qui travaillent, eux, durant tout l'hiver, qui ont pu nous présenter des gens. Nous avons pu les approcher. C'est un certain rapport de confiance qui s'établit. Et à partir de ce moment-là, la photographie démarre d'une certaine manière. Et c'est essayer de saisir sur le vif ces instants avec sensibilité, avec émotion, au plus proche, afin toujours de révéler cette pauvreté que quelque part on ne veut pas voir.
Est-ce que la diversité des gens que vous avez croisés, ça vous a surpris, Didier Rueff?
Ce qui est très surprenant, c'est la façon à laquelle, d'une certaine manière, vous, moi, n'importe qui peut, un jour ou l'autre, chuter et la chute ne s'arrête plus. Parce que si je repense à quelques individus, il y avait une cantatrice anglaise, qui a commencé à nous chanter un air d'opéra, qui nous a dit qu'elle avait été en concert à Vérone, dans les arènes. On a regardé sur Internet, on l'a retrouvée, et c'était fantastique. Cette femme avait une fille en Angleterre, elle était là, échouée, perdue. Oui. Il y avait un homme, un ancien joueur du Servette, des années 60, qui avait eu une belle vie. Puis un jour, un conflit familial, un divorce, et la chute lente, tranquille. Et cet homme se retrouve d'une certaine manière à la rue. Il est là, il est genevois. Il sort la journée, il rencontre ses amis. Mais pourquoi vit-il là ? Un mystère de la vie. Un autre qui était particulièrement frappant et que j'ai appris lors du vernissage de l'exposition qu'aujourd'hui, il a pu être hébergé dans un MS, récupérer un petit peu sa maigre solde qu'il avait. C'est un Valaisan qui a longtemps travaillé dans les alpages et qui, avec la modernisation, s'est retrouvé un peu à la rue et a fini à Genève. Un homme qui a longtemps habité à l'aéroport, j'ai reçu un jour un message d'une femme me disant cet homme avait des yeux d'un bleu si profond que je l'ai souvent croisé à l'aéroport, je n'ai jamais osé lui parler, je n'ai jamais compris à quel point il était seul. Et comme le journaliste avec qui j'étais était valaisan, nous avons pu réussir à créer un pont et l'approcher vraiment au plus proche. Et c'était particulièrement touchant. Et puis il y avait des migrants africains, qui pour la plupart avaient tous des papiers européens. Ils arrivaient d'Espagne suite à la grande crise économique. Oui. Ils avaient tout simplement perdu leur travail. Et ils étaient là un peu à la recherche d'emploi. Donc c'est des espèces de parcours étranges, hybrides. Et il y avait une femme, je crois qu'on dit ça, un transgenre.
Transgenre, oui.
Un transgenre, qui était là, avec son petit chien. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises en dehors dans la ville. Et c'était pour elle une île, un repos, cet endroit. Et aujourd'hui, elle est toujours à Genève, et elle se rend fréquemment en journée à la Cité Senior. Et donc voilà, d'une certaine manière, elle était heureuse aussi de savoir que ce travail allait être exposé.
À la Cité Senior, vous l'avez dit, Didier Rueff, on va revenir à vous d'ici quelques instants. Ce sera juste après Benjamin Biolay et Miss Miss, et nous continuerons d'évoquer votre travail ensemble.
Sur les sentiers de l'apocalypse, qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. Miss Miss, je t'ai dans la peau tout entière, tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois la naniste, je me rapproche de la terre. C'est trop triste, c'est oublier tout entière. Je ne peux pas, moi, me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi, me priver de toi. C'est trop triste, c'est finir. toi, on passe de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi, me priver de toi. Ça consiste d'être ainsi possédé. Je ne sais pas, Nice. Je ne sais pas t'oublier, pas t'oublier.
Miss Miss, c'était Benjamin Biolay dans Vertigo. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Didier Rueff, le photographe expose à la Cité Senior à Genève son travail consacré à ces gens hébergés dans l'abri de la route de Frontenay sous le stade Richemont, l'abri PC. Ce travail s'intitule 72 boulevard des Écorchés. On a évoqué quelques-unes des personnalités que vous avez rencontrées pour ce reportage, Didier Rueff. Il y en a deux, trois qui sont vraiment surprenantes. Je pense notamment à cet homme et cette tête de hibou déplumé qu'on complètement tombé du nid, qui vient d'Estonie, pardon, il s'appelle Tilt, je crois, c'est bien ça. Comment est-ce que cet homme est arrivé jusque-là? Enfin, est-ce que vous vous êtes intéressé à leur parcours, à toutes et tous, ou est-ce que le temps était si compté que ça, que vous avez juste quelques éléments biographiques très simples, sans plus d'informations sur eux?
D'une certaine manière, ces gens-là nous parlent, nous racontent leurs histoires, ce qu'ils veulent bien nous dire. Concernant Tilt, il est arrivé de Lituanie. Comment, pourquoi, mystère. Tilt avait un très sérieux problème d'alcoolisme, mais il était absolument drôle, hilarant, touchant et généreux dans son langage. Maintenant, quel est son parcours, quelle est sa vie? Certains m'ont raconté des brides d'une certaine manière, d'autres vous racontent des histoires. Je me souviens d'un Suisse qui est en photographie, qui lui était extraordinaire parce que il était bilingue, parfait. Il m'a raconté avoir vécu au Brésil. Il a commencé à parler en portugais, me parler de Rio, etc. Et tout tenait. Puis le lendemain, l'autre soir, il nous parlait de sa passion pour l'aviation, qu'il avait été pilote dans l'armée. Il a commencé à nous raconter des histoires militaires. Et tout était précis, tout était posé. On a le lendemain, on a été regarder sur internet ce qu'il nous a raconté. Tout tenait. Et cet homme, deux jours plus tard, je l'ai croisé dans les rues de Genève. Et il ne m'a pas reconnu. Je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas reconnu. Donc c'est des histoires, c'est des destins, c'est d'une certaine manière des hommes et des femmes avec des parcours très très particuliers.
Est-ce que vous n'êtes pas tenté dans ce genre de situation, et alors là on touche peut-être soit aux limites, soit au génie de la photographie, mais de documenter plus loin, de filmer, d'enregistrer ces gens?
Alors écoutez, ça c'est la démarche de plus en plus aujourd'hui de faire des web documentaires. Je dois dire qu'avec ce journaliste Xavier Filier, nous sommes partis en reportage aux États-Unis l'année passée et cette année. L'année passée, nous avons fait un long sujet sur une clinique et un centre de désintoxication sur Internet près de Seattle, où là nous avons filmé, enregistré. C'est un immense travail, c'est rajouter encore deux ou trois tâches supplémentaires. On a fait la même chose sur la libéralisation du cannabis. Cette année, on a fait un sujet sur les armes à feu. Et là aussi, on a fait une vidéo, du texte. C'est énorme. Et tout ce travail-là, aujourd'hui, vient finir sur l'Internet. Il n'a pas vraiment de valeur, c'est-à-dire que on n'arrive pas à être payé pour ce travail, donc c'est assez frustrant. On le fait un peu comme toujours par passion, puisque finalement, journalistes et photographes sont des gens de passion, s'impliquent, ne comptent pas leur temps ni éventuellement l'argent qu'ils investissent, mais on peut pas toujours le faire.
Est-ce que ce genre de travail laisse des traces, Didier Rueff ?
Mais malheureusement, comme tous les travaux, tous les reportages, ils ont tous un prix caché. Je pense que au bout de près de 30 ans de reportage, j'ai accumulé d'énormes traces dans mon cerveau d'une certaine manière, et c'est pour ça que je pense que la profession de photographe est une des professions qui dans lesquels les gens souffrent autant parce qu'on ne ressort pas intact, on ne peut pas ressortir intact de ces rencontres qui sont tellement riches, tellement émotionnelles, tellement intenses et qui nous remettent d'une certaine manière en question.
De quelle façon ça vous remet en question justement ?
Bah, ça nous remet en question parce qu'à travers eux, on se regarde, on se pose des questions. Le destin de ces hommes pourrait être le mien. Il faudrait peu de choses. Une situation familiale qui dérive, des problèmes financiers et puis une glissade qui va tellement vite, puisque de la société dans laquelle on vit, il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité. Les gens sont si seuls. Moi, je suis estomaqué de voir de plus en plus de gens marcher dans la rue, regardant leur portable, vivant dans un monde annexe. Ils ne sont plus là. Il n'y a plus de communication. On est à l'ère des social networks et des contacts sur Internet, mais les gens ne sont plus capables de se parler. Donc on se retrouve seul, et en se retrouvant seul, on peut chuter.
Est-ce qu'ils se parlent entre eux, justement, ces gens hébergés dans cet abri ?
Il y a certains contacts naissent, bien sûr, même si je dirais que les gens sont tellement épuisés, ils sont si fatigués qu'ils arrivent, ils ont tous un peu leur rituel d'une certaine manière, ils se posent, ils rejoignent leur lit, puis finalement vont manger, certains vont se doucher, et puis ils se recentrent un peu sur eux-mêmes dans un lieu qui est chaud, dans un lieu dans lequel ils n'ont pas d'atteinte, dans lequel ils sont protégés, et puis finalement ils vont s'endormir parce qu'ils sont épuisés. Vivre à la rue, c'est un horrible travail dans lequel on souffre et dans lequel ce poids, on le porte sur soi. Donc, quand on a la chance de se retrouver dans ces lieux, il faut beaucoup, beaucoup de temps avant de pouvoir libérer d'une certaine manière la parole.
Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Didier Rueff avec nous en duplex depuis les studios de nos confrères de la RSI à Lugano. Toujours avec nous, Didier Rueff. Vous qui avez parcouru, je l'ai dit tout à l'heure, le vaste monde, est-ce que vous arrivez à voyager sans appareil photo, sans prendre de photographie, pour vous vider la tête, tout simplement, puisqu'on a évoqué également les difficultés de votre métier qui consiste pendant des années et des années à encaisser parfois des images très très dures et des images chocs.
Mais d'une certaine manière, avant vous avez parlé de photographe en immersion.
Oui.
Eh bien, pour ne pas prendre de photographies, je fais de la plongée sous-marine. voilà. Et alors là, je pars en immersion.
Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des caissons étanches qu'on peut mettre des appareils photo dedans.
Ah, je sais. J'ai déjà regardé, j'ai tout regardé. Mais en fait, le grand plaisir, c'est d'être sous l'eau et juste de regarder parfois les autres faire des photos et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils sont mal placés. Non, je ne prends pas d'appareil photo. La tentation est grande. Voyager sans appareil photo, non, jamais. Non, ouais. D'une certaine manière, il y a toujours un petit dans la poche, ou alors un Leica en noir avec du film en noir et blanc, parce que je continue à faire du film. D'une autre façon, mais très récemment, pour me vider la tête, je me suis mis en fait à la salsa. Voilà.
Ah ben voilà. Oui.
Donc voilà. Donc là, je ne porte pas d'appareil photo parce que j'ai déjà assez de peine à contrôler mes pas, mes mouvements et tout, donc pas d'appareil photo.
Oui, et puis c'est un frein aussi à la liberté de mouvement, l'appareil photo, évidemment.
Surtout
pour
ça peut l'être.
Pour la salsa, oui, en tout cas, ça c'est sûr. Votre formation, Didier Rueff, vous êtes formé en économie politique à l'Université de Genève. Vous avez également étudié la photographie à l'International Center of Photography de New York. Comment est-ce que ces deux choses se rejoignent pour votre grande œuvre, si j'ose dire, c'est-à-dire l'écologie et la documentation des traces de l'homme sur la planète, puisque j'en évoquais de nouveau tout à l'heure Recycle, cet ouvrage phare qui avait marqué lors de sa sortie.
D'une certaine manière, c'est la passion de l'homme. C'est cet intérêt que j'ai découvert en voyageant, les premiers voyages avec l'Interrail, puis un appareil photographique. Étant timide, la photographie me permet d'approcher les autres. Approcher les autres, c'est voir comment ils vivent. D'où des études en économie politique, des études qui ont été plutôt frustrantes parce que très théoriques, basées sur les grands flux économiques que j'ai quittés en me disant tout ceci ne tient pas debout et finalement, malheureusement, le monde s'écroulant au niveau économique, je me conforte dans l'idée que toutes ces théories, c'est du vent d'une certaine manière. Et je suis parti, en fait, à la recherche de l'autre, voir comment il vit au plus proche avec un appareil photo. Donc voilà, c'est assez simple finalement.
Oui, reste que quand même pendant plus d'une dizaine d'années, vous avez parcouru la planète pour ce travail. Et lorsqu'on dit que vous êtes allé partout, vous êtes vraiment allé partout, de la Micronésie jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Europe, l'Inde, enfin quasiment tous les continents. Vous les avez quasiment tous explorés, photographiés.
Il me manque l'Arctique et, oui. et le pôle Nord d'une certaine manière, enfin, Antarctique et Arctique. Mais oui, c'était 20 ans de travail, 20 ans de quête sur cette relation très ambiguë qu'entretient l'homme et les déchets. Mais les déchets sous toutes ses formes, les déchets qu'il produise, les déchets de sa consommation, les déchets de la pollution, les déchets de la guerre, tout ce qu'on peut imaginer en fait, tous les flux économiques qui créent des déchets et qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc ça a été une longue quête qui a donné naissance à ce livre, mais qui à ce jour, et je suis content que vous me posiez la question, à ce jour n'a jamais vraiment encore été exposé. J'ai tenté dans les grands lieux de la photographie et ce travail à ce jour a toujours été refusé. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, ce n'est pas une question de qualité photographique, j'ai juste l'impression que ce sujet fait peur. Il interpelle, il pose des questions et je n'y arrive pas. Pour l'instant, je n'y suis pas arrivé à l'exposer. Ça, c'est une grande tristesse.
Il y a eu quand même quelques débats, quelques tentatives d'exposition de ce travail. On en avait notamment parlé ensemble lors du Salon du Livre de Genève il y a de cela quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui on a changé d'air alors? C'est-à-dire qu'on va plus aller voir des expositions qui nous montrent des solutions, voir des films qui nous proposent des solutions, plutôt que le constat alarmiste et dramatique de l'état de notre planète?
Bien, je crois que malheureusement, il est plus facile de d'égarer les gens en leur proposant des grandes expositions sur les beautés de la planète que font très bien certains photographes. Il y a un très beau travail de Salgado, oui, sur cette terre d'il y a 20 siècles d'une certaine manière, à laquelle malheureusement je ne peux pas adhérer, puisque où qu'on aille dans le monde, il y a des traces de l'homme, des traces de plastique, des traces de déchets, des destructions. Donc ne pas montrer la présence de l'homme, selon moi, c'est une erreur. De même, la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, c'est très beau, c'est toujours très très beau, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que malheureusement c'est loin d'être aussi beau, que la Chine souffre d'une immense pollution en hiver due à son mode de fonctionnement, qu'il y a un énorme problème en Inde et ainsi de suite. Donc je pense que bien sûr, il faut montrer les solutions, mais montrer une fois le constat réel, c'est mettre un peu les gens face à leur réalité. On ne peut pas toujours fuir une non-responsabilité.
Il y a ce travail que vous avez réalisé et dont nous parlons dans cet abri PC qui se trouve à la route de Frontenay, Didier Rueff. Ça s'appelle, je le rappelle, 72 boulevard des Écorchés, c'est à voir à la Cité Senior à Genève. Si on va sur votre site, on peut voir certaines des photographies et on peut voir également une partie de votre travail. Vous avez notamment beaucoup photographié aux États-Unis. Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Vous avez fait notamment cette série de reportages autour des armes aux États-Unis. Reportage frais de cette année. Une société qui est tout aussi délirante, finalement que celle que l'on peut voir dans ce reportage, dans laquelle on se rend bien compte qu'il y a des gens qui sont littéralement laissés pour compte, et s'il n'y avait pas ces abris PC, ces gens seraient effectivement totalement laissés pour compte et abandonnés par la société. On a d'un côté une société hyper sécuritaire, en tout cas dans cet état-là américain, l'Arizona, avec des gens surarmés, mais à un point c'est complètement délirant, il suffit de voir les photographies et vraiment les bras nous en tombent. Et puis de l'autre, une société qui, elle, tente plutôt de préserver, de prendre soin. Ce sont deux différences majeures entre, on peut dire, l'Europe et les États-Unis.
Bah, d'une certaine manière, ce qui est intéressant sur le sujet sur les armes, c'est que je pense qu'il y a autant d'armes en circulation en Suisse qu'il y en a aux États-Unis. Alors peut-être qu'on les gère mieux en Suisse. Il y a moins de morts, puisque finalement aux États-Unis, il y a à peu près une tuerie par semaine. Le reportage que nous avons fait en Arizona est absolument délirant. C'est le constat de gens qui n'ont aucune confiance dans l'État. L'État ne pouvant subvenir à leurs besoins, ils doivent se protéger, s'autoprotéger, et comme le second amendement de la Constitution leur autorise le port d'armes, eh bien, ils s'arment. Et ils s'arment de manière massive, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 7 pistolets, des armes lourdes, des fusils mitrailleurs, et ils sont suréquipés afin de pouvoir répondre à toute attaque. D'une certaine manière, la Suisse a un petit peu le même cliché, puisque finalement, tout bon Suisse a un fusil mitrailleur à la maison, est prêt à intervenir, il y a des stands de tir partout. La gestion des armes est simplement meilleure en Suisse qu'aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en Arizona, ce qu'on a constaté, c'est le délire absolu.
Il y a notamment le portrait d'une femme qui s'appelle Carrie Lightfoot. Elle est la créatrice et la directrice d'une entreprise, oui, parce qu'elle vend des choses
sur Internet,
sur Internet, voilà, qui s'appelle The Well Armed Woman, où au fond, son slogan, c'est où le féminisme rencontre l'arme à feu, d'une certaine façon, où la féminité rencontre l'arme à feu. Et vous avez fait des photos d'elle, où elle a effectivement un revolver à la ceinture, elle en a un autre sur le côté de son lit, dans un holster plaqué contre le support du lit. Enfin, on a l'impression d'avoir affaire à des gens totalement paranoïaques.
Ils sont totalement paranoïaques, même s'ils sont très sains d'esprit. Hein. Ouais, ce ne sont pas des fous, bien loin de là. Ce sont juste des gens qui partent du principe qu'ils doivent pouvoir se défendre. Ils doivent, contre toute attaque, pouvoir intervenir. Mais c'est ce qui est étonnant, c'est ce constat en fait de peur larvée qu'ils portent avec eux. Et cette femme a découvert les armes il y a peut-être 5-7 ans. Cette femme est une entrepreneure qui a senti le filon, qui s'est lancée dans ce business féminin dans lequel il y a tous les accessoires, que ça ait des soutiens-gorge aux gaines, tout ce que vous pouvez porter, puisque finalement, comme les femmes portent des habits différents des hommes, tout est équipé pour pouvoir porter un, voire deux pistolets en permanence. Et ce sont des gens qui... pour qui l'État ne pouvant intervenir, ils vont faire leur propre police d'une certaine manière. Et ils seront prêts à intervenir si quelque chose arrive. Voilà.
Et on voit des photos absolument délirantes où on voit notamment une petite fille qui a 8 ans avec des Pamir roses s'exercer au tir. On voit une Kalachnikov rose également. Enfin, la Kalachnikov Barbie vraisemblablement existe déjà aux États-Unis.
Il faut séduire la clientèle. Les enfants, on leur fait des armes un peu flashy. On leur fait des armes plus légères. Cette jeune fille que j'ai vue tirer ainsi que son frère, ces balles qui sont des balles mortelles donc. À 15 mètres, elles étaient toutes dans la cible. Elle était très fière de me dire qu'elle avait elle-même choisi son fusil pour sa performance, mais aussi pour sa couleur. Son frère portait un pistolet à la ceinture, puis après il a tiré au fusil M16. Ce sont des gens qui sont prêts à toute éventualité. Ce sont des gens qui votent essentiellement républicains et voilà.
Je parlais d'une société paranoïaque surarmée face à une société de la compassion qui serait plutôt la nôtre. Est-ce que vous le vivez également comme ça lorsque vous repensez à ce reportage que vous avez réalisé dans cet abri PC à Genève? Il y a la compassion d'un côté face, disons, à une extrême dureté de l'autre?
Je suis pas sûr qu'on pourrait parler de compassion. Il y a une certaine, il y a une prise de conscience de par l'État d'un constat que la pauvreté est là, qu'elle est rampante, qu'on ne peut pas abandonner ces gens. Mais je ne suis pas sûr que ce soit de la compassion. On offre des structures, des infrastructures, mais il reste beaucoup de gens qui sont à la rue, des gens qui n'ont pas de logement, qui ne savent pas où aller. Ils ont quelques repas, mais comme ils le disent eux-mêmes, que faisons-nous quand à 7h30, 8h, on nous pousse gentiment dehors, sortez vers 8h du matin, et moi je l'ai fait avec eux, dans le froid, et attendez jusqu'à 17h, 19h le soir que l'abri rouvre. C'est une très longue journée dans laquelle il n'y a pas tellement d'haltes. On peut s'asseoir dans un tram et sillonner la ville, aller à la gare, éventuellement à l'aéroport, peut-être essayer de se faufiler dans un grand magasin, mais il n'y a rien. Courir les différents repas communautaires qui sont à faire, mais ce sont des gens qui sont malgré tout quand même perdus et que la société oublie un petit peu.
Parmi ces gens, on l'a dit, il y a quand même quelques figures très marquantes, très, très étonnantes. Est-ce que vous avez essuyé malgré tout des refus de la part de certaines personnes, des refus d'être photographiés ?
Ah oui, beaucoup. Beaucoup, et des refus même parfois virulents de gens qui tout simplement ne veulent pas que les autres sachent quelle est leur situation, de gens qui sont là en transit d'une certaine manière, qui échouent un peu perdus dans ces abris, qui peuvent venir d'autres cantons, qui d'une certaine manière n'ont pas le courage de parler à leurs proches. Je me souviens de l'histoire d'un Zurichois qui était à Genève et qui finalement n'avait pas le courage d'appeler son frère pour lui dire j'ai besoin, je suis vraiment mal, donne-moi un coup de main. Et je pense que là est le grand problème de cette société dans laquelle on vit. C'est juste que on est juste trop simplement trop individualiste et on ne voit pas que l'autre va mal et on l'oublie.
Alors il y a ceux qui on va dire ont un besoin temporaire d'être abrités, hébergés, ceux pour qui c'est malheureusement devenu une routine, et puis certains cas psychiatriques assez lourds que l'on peut deviner ou comprendre en lisant les légendes ici ou là. Est-ce qu'il est juste et normal, et comment se passe cette cohabitation entre ces gens psychiquement, disons, dans la difficulté, et puis les autres ?
Ben, elle se passe toujours très bien parce que il y a des antagonismes forts. Donc l'idée de cet abri avec ses spécificités un petit peu réservées aux familles, réservées aux grands précaires qui en général sont tous des cas à caractère psychiatrique, et d'y associer des femmes. Souvent ce sont des Roms, afin d'éviter que les femmes soient dans l'autre abri de protection civile avec au milieu de plein d'hommes, et Dieu sait ce qui peut arriver. Il y a des frontières qui font que les gens n'arrivent pas à se parler, certains, parce qu'ils sont perdus dans leur monde, et d'autres sont dans d'autres quêtes.
Et comment les gestionnaires de l'abri gèrent-ils justement ces cas-là, ces différences ?
Eh bien, eux, ce sont des maîtres absolus de jongler d'une situation à l'autre. Ils ont une capacité d'empathie et finalement d'amour de ces gens qui est fantastique. Ils sont là, présents tous les soirs. Ils connaissent les travers de leurs pensionnaires d'une certaine manière. Ils savent comment les gérer. Ils savent comment les approcher. Et je trouve que c'est des gens qui font un travail remarquable et qui n'est pas facile parce que ils ont affaire à des écorchés de la rue et de la vie.
Est-ce que lorsque vous avez fini votre reportage, vous avez gardé quelques contacts avec certains ?
Ben comme je vous le disais, au fil des hasards de la rue, etc., j'en ai croisé certains. Certains,
alors, certains
ne
qui ne vous ont pas reconnu, vous nous l'avez
certains
dit.
Certains qui ne m'ont pas reconnu, justement. Ouais. D'autres que je vois errer, que je vois passer, que je vois parler tout seul, que je reconnais, portant un sac à dos, marchant vers quoi, je ne sais pas. Et d'autres comme cette femme et son petit chien que j'ai retrouvé à deux endroits différents avec lesquels j'ai pris le temps de m'asseoir et discuter une heure et de parler un petit peu de la situation, de voir un petit peu comment vont les choses.
Est-ce que vous pensez, Didier Rueff, que ce genre de travail-là, vous allez le recommencer, documenter peut-être un autre centre ou revenir dans ce centre-ci, sous le stade Richemont, pour
poursuivre? Eh bien, écoutez, ce qui est assez intéressant, c'est que lors du vernissage de l'exposition, la maire de Genève, Esther Adler, est venue au vernissage. Je l'avais rencontrée à l'époque de mon premier reportage parce qu'elle travaillait avec Noël Constant, qui est l'homme de la pauvreté à Genève, d'une certaine matière, le fondateur de Carrefour Rue. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ne serait-il pas temps de mandater un photographe, de lui donner la possibilité de vraiment s'investir sur un long travail sur la pauvreté, d'essayer d'aller voir un peu tout ce qui se passe, essayer d'en tenir un petit peu une documentation. Et bien, j'attends la réponse. Réponse je ne sais pas s'il y en aura une.
Oui, oui, évidemment.
Vous savez, là, on a affaire aux politiques, et le politique, c'est difficile.
Et ça prend du temps, en effet.
C'est très compliqué.
Ils ont demandé à voir les photographies, les résidents, si j'ose dire.
Non. Non, mais ça, c'est un petit peu la règle que je m'impose. Je ne montre jamais les photographies sur le rétro des appareils. Autrefois, c'était beaucoup plus simple. Il y avait de la pellicule, donc il fallait la développer, ça mettait du temps. Et je trouve que ce qui est important, c'est d'expliquer la démarche. C'est de dire, je travaille de cette manière, je fonctionne ainsi, je vais vous suivre, je vais documenter votre vie, et faites-moi confiance. Je travaille dans le respect, il n'y a pas d'outrance, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'abus. Mais si je commence à montrer, et parfois je le fais, mais très très rarement, le dos de l'image sur le rétro-écran, on n'arrête plus, c'est infernal. Moi, le rétro-écran, je l'utilise uniquement pour contrôler que ma lumière est bonne, que mon cadrage tient, et puis après je l'oublie. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'image qui est devant moi, c'est cette situation, c'est de m'en imprégner, c'est d'être présent, c'est de saisir l'instant. Et puis les images, bon, on les verra après, dans un deuxième temps. On fera un choix, on regardera, et c'est là le côté fantastique de ce travail de photographe, c'est ce côté où justement on passe à un regard d'une certaine manière subjectif, où on fait des choix, on choisit de montrer une certaine situation, sous un certain angle. Et c'est ça qui, moi, me passionne dans ce métier.
Didier Rueff, une exposition à voir à la Cité Sonior. Ça s'appelle 72, boulevard des Écorchés. Merci d'avoir passé cette heure avec nous et à très bientôt.
Merci, au plaisir.